Je pense que tous ici dans cette salle avaient été plus ou moins tenus au courant des événements qui vont se préparer dans cette année 2017. Et depuis quelques mois, et pour encore quelques semaines, nous allons être abreuvés de toutes parts, par les chaînes de télévision, par les médias, par les journaux, d'un événement capital, l'élection présidentielle. Et ces médias, depuis longtemps, font des sondages pour connaître les positions de chaque candidat, ce qu'il va apporter, quelle est la mission à laquelle il va s'attacher pendant les 5 années à venir, et le bien que l'on peut en escompter pour notre belle terre de France. Des sondages, on en trouve aussi dans les Écritures. Et au cours des 3 années de son ministère, Jésus, à plusieurs reprises, s'est dévoilé un petit peu, comme quelqu'un d'extraordinaire. Il a fait des miracles, il a apporté un enseignement remarquable en tout point de vue. Il a choisi des disciples pour leur donner un travail, une mission bien particulière. Et bien plus qu'un prophète, lorsque Jésus s'est présenté, il s'est souvent présenté comme le Fils de l'homme, Matthieu 8, verset 20. Par ailleurs, lorsqu'il guérissait des malades, des paralytiques, des aveugles, c'est étonnant de voir que lorsque ceux-ci étaient guéris, Jésus leur recommandait de ne surtout pas dire autour d'eux ce qu'ils avaient vécu, ni celui qui les avait guéris. Quelque chose qui peut nous étonner. Quant aux démoniaques, qui savaient pertinemment qui était le Seigneur, ils les faisaient taire. C'est pourquoi Jésus a toujours évité de se révéler. Et dans une autre circonstance, à Jérusalem, lors de la fête de la dédicace, alors que les Juifs lui demandaient s'il était vraiment le Christ, il leur répondit: « Moi et le Père, nous sommes un, Jésus, Dieu lui-même. » C'est pourquoi les Juifs, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, dès cet instant-là, ont pris la décision de le faire mourir. Alors le texte que nous allons méditer ce matin est au départ un sondage d'opinion. Nous le trouvons, ce texte, dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 27 à 33, pour ceux qui ont les Bibles bleues, c'est à la page 1127. Marc 8, versets 27 à 33. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question: « Qui suis-je, au dire des hommes ?» Ils répondirent: Jean-Baptiste pour les uns, Élie pour les autres, l'un des prophètes pour d'autres encore. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: tu es le Christ, ou pour certains dans votre version que vous avez dans les yeux, tu es le Messie. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit: « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Au départ, une question: « Qui dit-on que je suis ?» Jésus va aller plus loin et je vous invite à aborder ce texte en 3 étapes. Tout d'abord, une enquête d'opinion, ensuite une question personnelle aux disciples, enfin, une révélation importante. Une question posée par Jésus aux disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Une enquête d'opinion qui se déroule, cet événement, dans le nord du territoire d'Israël, dans la région de Césarée de Philippe, là où Jésus a déjà beaucoup guéri de malades, fait des miracles, enseigné les foules. Si bien que dans cette région de la Galilée, on avait déjà une opinion de Jésus. Et en cours de route, donc, Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Une question toute simple, verset 27. « Que disent les hommes à mon propos ? Qui suis-je ? Quelle opinion les gens ont-ils de moi ?» Les disciples sont donc appelés tout simplement à répondre à Jésus sur ce qu'ils entendent, la rumeur. Et vous savez comme moi combien Jésus attirait les foules, combien Jésus, par les miracles qu'il accomplissait, faisait qu'on venait de très loin pour le rencontrer, être guéri ou l'entendre. Sa renommée s'est donc très vite répandue dans ces territoires de Galilée, là où il commença son ministère. Alors la réponse des disciples est celle qu'ils ont entendue des foules, ça et là, dans les villages où Jésus est passé. Alors les réponses données, il y en a trois. Les uns pensent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, et les autres encore un autre prophète. Vous remarquerez que cette réponse est exactement la même que celle qui a été donnée à Hérode, lorsque Hérode, ayant entendu parler de Jésus, demanda « Qui est cet homme ?» Ces réponses montrent déjà que Jésus était reconnu comme quelqu'un de bien. Les personnages évoqués là, que ce soit Élie, Jean-Baptiste ou un autre prophète, étaient des gens, nous allons y revenir, dont la renommée pour les Juifs était grande. Mais des opinions très variées, mais remarquables dans le choix des personnages cités. Jean-Baptiste, c'est aussi l'opinion d'Hérode. Hérode, ce roi terrible, qui, depuis qu'il avait fait décapiter Jean-Baptiste, avait des remords. Le remords qui peuplait ses nuits, sa conscience qui le poursuivait, et il avait l'impression de voir le spectre de Jean-Baptiste partout, un revenant. Et quand il entend parler de quelqu'un qui annonce le royaume de Dieu de façon puissante, qui accomplit des miracles, des signes, il croit vraiment que c'est Jean-Baptiste qui est là et qui est ressuscité des morts. Autre opinion, Élie, un des grands prophètes d'Israël, l'homme qui avait osé défier ce roi Achab. Pendant plusieurs années, poursuivi par tous les hauts responsables sous le roi Achab. Partout où il allait, il était pourchassé. Et il a réussi, à travers son ministère, à avoir une influence capitale en Israël. C'est un homme qui a ressuscité 7 personnes. Des miracles. Un homme dont la dernière partie de l'Ancien Testament, le prophète Malachie, nous dit qu'il allait revenir, ce qui peut expliquer que pour certains, la personne de Jésus était Élie. Pour d'autres, enfin, un prophète. Alors, 3 réponses, bien évidemment, elles sont fausses. Elles montrent quand même que l'idée que les gens se faisaient de la personne de Jésus était vague. On voit l'identité et la mission de Jésus sous certains aspects qui ne sont pas forcément ceux les plus importants. De toutes ces circonstances et de tous ces éléments, toutes ces considérations données, une chose nous saute aux yeux. L'opinion des gens, quoique étant fort différente, fait que Jésus n'était pas considéré comme un homme ordinaire. Un homme, au contraire, extraordinaire. Et si l'on juge aujourd'hui Jésus-Christ à partir de l'influence qu'il a eue sur le monde, sans aucun doute. Nul ne peut se comparer à lui. Mais une telle considération, bien qu'élogieuse, est fort éloignée de la foi en Jésus, en son ministère et en l'œuvre pour laquelle il est venu ici-bas. L'incrédulité des Juifs quant au ministère de Jésus, elle s'est déjà manifestée de manière ouverte. Combien de fois les grands sacrificateurs et autres scribes et pharisiens ont voulu porter la main sur lui pour le faire mourir. Et même quand il leur demandait, ces scribes et pharisiens à Jésus, quand ils lui demandaient « Mais qui es-tu ? Es-tu vraiment le Christ ? Fais-nous voir un signe venant du ciel. » Jésus leur a répondu simplement, pour bien se faire comprendre, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, sous-entendu le Messie, vous mourrez dans vos péchés. » Ou encore, cette autre réponse qu'il donne dans Matthieu 16, verset 4, « Il ne vous sera donné, quant à moi, aucun autre signe que le signe de Jonas, sous-entendu par là, sa mort et sa résurrection 3 jours plus tard. » La nation d'Israël devait croire que Jésus était le Christ. Elle aurait dû le reconnaître comme tel, ce Messie promis. Or, elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce que l'on dirait aujourd'hui si l'on faisait une enquête d'opinion sur qui est Jésus ? Elle a traversé les siècles, cette question. Alors, si on vous posait la question, certains diraient, mais c'est une évidence, pas besoin de répondre, Jésus est le Fils de Dieu. D'autres vous diront, ce n'est pas une question d'actualité aujourd'hui. Tout le monde sait plus ou moins qui est Jésus. On vient de fêter sa naissance. C'est quelqu'un de bon. Nous ne le ferons pas. Alors, qui est Jésus ? Quelle appréciation les gens en ont d'aujourd'hui ? Alors, j'ai recherché un petit peu des enquêtes d'opinion faites par des chrétiens dans les années écoulées. Et je suis remonté au début des années 2010. Un sondage fait par le CSA, un organisme officiel hautement reconnu. Auprès d'un échantillon large, 2000 personnes, hommes et femmes, toutes les catégories d'âge, à qui on a posé la question « Que représente Jésus pour vous ? Qui est-il vraiment ?» Et les réponses, je vais vous donner par ordre décroissant, en pourcentage, des réponses qui ont été obtenues. Un homme qui a existé, mais rien d'autre. 30%. Le Fils de Dieu, 27%. Ah, c'est une bonne réponse. Un guide, 20%. Un sage, 17%. Un prophète, 18%. Un exemple d'amour, 12%. Un contestataire, 10%. Dieu lui-même, 8%. Et 13% d'autres réponses. Même si, d'après ce sondage, beaucoup reconnaissent Jésus comme ayant été un personnage qui a réellement vécu, donc historiquement, pour certains, un homme saint, voire un martyr, dans les réponses qui ont été formulées, il n'y a pas vraiment, en dehors de deux catégories de réponses, une réponse dans laquelle on ressent le vécu personnel de l'un. J'entends par là entendre cette parole extraordinaire, Jésus, mon sauveur personnel. Alors quand on nous pose la question, qui est Jésus pour vous ? Réalisons-nous vraiment, quand nous allons donner une réponse, ce que cette réponse représente ? Y répondre personnellement, c'est ce que je dis de Christ pour moi. Lorsque je formule mon opinion concernant Jésus. Est-ce une simple parole de connaissance ? Oh, ben oui, je connais Jésus, c'est un homme qui a vécu. Est-ce l'expression de mon identité culturelle, ce que j'ai reçu de mes parents ? Ou est-ce vraiment une confession de foi ? Cette question, Et la réponse que nous y donnons me semble essentielle. En effet, la foi véritable en Jésus-Christ, c'est le point de départ de toute vie chrétienne pour chaque enfant de Dieu que nous sommes. C'est la raison pour laquelle, après avoir fait cette enquête d'opinion tout autour de lui, auprès des disciples, Jésus va s'adresser directement à eux. Ce sera notre deuxième point, une question personnelle. Le Seigneur s'adresse aux disciples d'une façon très personnelle. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Remarquez que l'accent est mis sur le « vous ». Vous, les disciples que j'ai choisis, que j'ai formés, que j'ai enseignés. Alors pourquoi Jésus pose-t-il cette question à ses disciples ? D'abord pour leur faire prendre position devant lui. Ce n'est pas un simple accompagnateur sur les routes de Galilée ou de Judée. Jésus veut montrer à ses disciples qu'il s'intéresse certes à ce que les gens pensent de lui, mais bien plus encore à ce que eux, les disciples, pensent de lui. Et il faut répondre, aucune échappatoire. Eh bien, comme souvent, j'allais dire comme presque tout le temps, c'est Pierre qui, avec un élan de générosité, s'adresse à Jésus. Alors probablement intervient-il aussi comme porte-parole des 11 autres disciples. Mais sa réponse fuse et magnifique, confession merveilleuse. Tu es le Christ, tu es le Messie. Verset 29. L'envoyé de Dieu, le sauveur du monde. Cette réponse, rapportée par Marc, est la plus courte. Par rapport à celle rapportée par Matthieu qui dit « En plus, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16, verset 16. Cette courte mais extraordinaire réponse, elle exprime vraiment la foi de Pierre en Jésus, son maître, le Messie promis. Pour Jésus, il est essentiel que la question de son identité soit fermement, mais fermement résolue. Cette affirmation de Jésus, Fils de Dieu, Messie, de la part de ses disciples, est quelque chose qui va marquer leur vie, même si au cours des semaines et des mois à venir, on va les voir s'étioler dans leur foi, avoir des manquements, avoir des doutes, et aller même au moment de l'arrestation, du jugement et de la croix. À fuir, à s'éloigner, à s'échapper de la présence même de Jésus. Cette question posée aux disciples, elle a aussi été de manière indirecte au Sanhédrin, à la Cour suprême juive, à qui Jésus a dit ce qu'il était. Es-tu le Christ ? Tu le dis. À Ponce Pilate, également. Et elle l'est encore aujourd'hui posée à chacun de nous. En effet, c'est bien plus qu'un sondage d'opinion que Jésus veut avoir. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut sonder nos cœurs, savoir ce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous reconnaissons en sa personne. Mais alors je m'interroge, face à la réaction de Jésus, elle peut nous sembler déroutante. Pourquoi, devant une si belle confession de foi de la part de Pierre, Jésus lui demande-t-il de se taire ? Pourquoi cela ? Jésus le Messie, Jésus le Christ, celui qu'il faut faire connaître tout autour d'eux. Pourquoi ce terme ? Pourquoi se taire ? Jésus savait qu'il était loin de Dieu, celui qui était préparé d'avance pour une mission. Et il accepta donc la déclaration de Pierre comme juste. Et s'il lui ordonna le silence, c'est de toute évidence parce que le moment, l'heure, n'était pas encore venu de se révéler comme le Messie. Et il y a peut-être aussi une autre raison. Pierre, comme les autres disciples, et on va le voir tout à l'heure, ne réalisaient pas vraiment la portée de ce que cela voulait dire. On va le voir dans les paroles de Pierre un peu plus loin. Mais il y a aussi une autre réponse, peut-être, pour laquelle Jésus a posé cette question à ses disciples. Il a voulu mettre au cœur même de ses disciples la responsabilité qui était la leur d'apporter autour d'eux la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, ce n'est plus pour les seuls disciples à prendre conscience de qui est Jésus. Mais Jésus veut les amener à prendre conscience de ceux qui se perdent autour d'eux, de ce peuple d'Israël qui est sans berger et dont Jésus voudrait que tous ses poussins soient ramenés sous son aile. Il est important pour nous aujourd'hui, comme ça l'était au cas du temps de Jésus pour les disciples, de se soucier de ceux qui sont autour de nous. D'ailleurs, Jésus l'a fait pour prendre conscience, pour que les disciples prennent conscience qu'il était important de parler de lui, de ce qu'il faisait. Il a, tout au long de son ministère, envoyé ses disciples. Luc nous dit, au chapitre 10, qu'il en envoya 72, deux par deux, dans toutes les villes, dans tous les territoires, avec commission de guérir des malades, de délivrer des esprits impurs, d'annoncer la bonne nouvelle. Leur confession publique à ses disciples était essentielle à ce moment-là. Mais elle était d'autant plus nécessaire qu'ils devaient faire connaître autour d'eux ce Jésus vers lequel ils étaient allés, ce Jésus qu'ils avaient suivi. Et même si ces choix personnels allaient avoir des répercussions terribles dans leur vie. Du coup, la question devient actuelle pour nous, et elle est essentielle. Elle nous invite à nous ouvrir aux autres, à aller vers les autres, à dire, comme Jésus l'a demandé à ses disciples, qui est Jésus pour vous ? Afin de leur présenter l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est la mission de l'Église, c'est notre mission à chacun de nous en particulier. Et j'ai une phrase que j'ai trouvée de Dietrich Bonhoeffer qui est remarquable. Je cite, « L'Église n'est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. » Toute la portée de l'annonce de l'Évangile et du message de la bonne nouvelle. Alors, à l'exemple de Jésus, n'hésitons pas à nous intéresser aux autres, à savoir ce qu'ils pensent de lui, sans les juger ni les condamner, mais dans le seul but de leur faire connaître celui qui est tout pour nous et de leur annoncer le message de la bonne nouvelle, à savoir le salut en Jésus-Christ. Et cela nous amène à notre dernier point, des révélations importantes. Les questions de Jésus, tant aux disciples qu'aux foules à qui il s'adressait, ont souvent été des tremplins utilisés par Jésus pour son enseignement. Et dans ce récit, Marc rapporte la belle confession de Pierre sous sa forme la plus simple et la plus directe pour se concentrer sur un enseignement essentiel que Jésus va délivrer à partir du verset 31. Les gens avaient en effet de fausses idées à propos du Messie. Le Messie davidique promis, attendu, était considéré comme un personnage politique important, un nationaliste. Réponse pour laquelle vous avez tout à l'heure entendu un contestataire, capable de délivrer le peuple juif du joug romain. Mais la mission messianique de Jésus n'était pas cela. Elle était bien plus importante, la portée était universelle et ne concernait pas seulement Israël. Alors, dans le verset 31, Jésus fait à ses disciples une révélation essentielle. Il allait mourir. Un élément qu'il apporte à ses disciples. Et le texte nous dit que dans le message qu'il leur a donné, il a été on ne peut plus clair. Il allait souffrir. Il allait être jugé. il allait être condamné, il allait être crucifié. Mais le troisième jour, la grandeur de Dieu ferait qu'il ressuscite entre les morts. Remarquez le terme utilisé par Jésus, il fallait une contrainte. C'est parce que c'était dans le plan de Dieu, cette volonté délibérée du Père de réconcilier tout homme avec lui. Tout homme pécheur, tout homme coupable, à travers le sacrifice d'un seul, saint, innocent, pur. Lui, le Fils de l'homme, allait souffrir, être rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, par le peuple lui-même, celui qui criait une semaine plus tôt « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est le même qui, une semaine plus tard, allait crier « Crucifie-le ». Mais Jésus annonce sa résurrection. Étape importante, étape extraordinaire. Et dans cette attitude de Pierre, qu'est-ce que nous voyons ? Pierre qui, lorsque Jésus annonce qu'il va souffrir, qu'il va être jugé, condamné, crucifié, prend Jésus à part et lui dit « Mais certainement pas, tu te trompes, ça n'est pas ça !» C'est pas ce qu'on attend. C'est pas pour ça que tu es venu. Et la manière de répondre de Jésus, exactement comme il l'a fait lorsque quelque temps plus tôt, dans le désert, il a été tenté par le diable. Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu et tu n'as que des pensées humaines. La réaction que Pierre et les autres disciples partageaient probablement était donc une tentative satanique. Malgré son affection naturelle et profonde pour le Seigneur, Pierre ne voyait pas les choses de cette manière. Il n'avait pas compris la révélation profonde du ministère de Jésus ici-bas. Et sans aucun doute, Pierre reculait aussi devant l'épreuve qu'il discernait, qui allait être la sienne. Jésus leur avait dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et le texte que Matthieu a médité pour nous la semaine dernière, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, ça veut dire subir dans notre vie, dans notre témoignage, ou aller jusqu'à souffrir ce que Jésus a souffert, à vivre en étant la risée, l'opprobre, le rejet des hommes. Le Messie glorieux est un Messie souffrant, un Messie condamné, un Messie crucifié, mais un Messie ressuscité. D'une certaine manière, Pierre a vraiment réalisé que suivre le Christ, ce Messie souffrant et lui obéir, aurait des répercussions dans sa vie et dans tous les disciples que nous voyons. Beaucoup, pour ne pas dire la quasi-totalité d'entre eux, ont eu une fin terrible. Alors, aujourd'hui, il nous faut, comme les disciples, prendre position. Répondre, comme l'a fait Pierre, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es celui que tout Israël attend, tu es celui que je voulais rencontrer. Oui, mais être prêt à le suivre, avec tous les engagements que cela représente. Il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus a été un homme exceptionnel. Il faut le considérer comme le Seigneur, notre Sauveur personnel, le Maître de notre vie, et aller avec lui jusqu'au bout. Être chrétien, c'est ça. C'est affirmer que Jésus est le sauveur, mon sauveur personnel. Est-ce que vous êtes prête à le faire, si vous ne l'avez pas fait encore maintenant ? Est-ce que vous êtes prêt à propager cette bonne nouvelle autour de vous ? Pas pour votre propre gloire, mais pour la seule gloire de celui qui a envoyé Jésus-Christ, Dieu le Père. Amen.